Et on va continuer. J'invite pour cela Muriel Jonas de AG2R La Mondiale, ainsi que Mickaël Blanchet. Bonjour à tous les deux. Avant de vous donner la parole, Mickaël, il y a Muriel, donc Jonas de AG2R et La Mondiale, qui va s'exprimer. Et puis, vous allez prendre la suite, Mickaël. Vous êtes géographe au Gérontopôle des Pays de la Loire, qui est un centre de recherche de ressources, d'études, d'innovation sur les enjeux de la longévité. Et vous travaillez depuis plus de 10 ans maintenant sur le vieillissement, que vous étudiez les grandes mutations. Et vous allez aujourd'hui nous présenter votre analyse sur les aidants des personnes âgées. Mais avant cela, Muriel voulait dire quelques mots.
Oui, c'est une toute petite introduction. Donc AG2R qui assure les particuliers, les entreprises sur la santé, le patrimoine et évidemment les revenus et la retraite. On a aussi, on est peut-être un peu moins connu pour ça, notre action sociale AG2R Agir Carco, qui est là pour soutenir à la fois les particuliers. Donc je vous inviterai, pour ceux qui le souhaitent, à venir sur notre stand. On a des services ou des aides financières qui peuvent être sollicitables, comme des leviers, là, dont on entendait parler tout à l'heure, quel levier il y a pour les aidants. C'est un petit levier, mais il est existant. Et puis, l'action sociale AG2R Agir Carco, c'est aussi surtout son soutien à des experts et à des partenaires. Et aujourd'hui, du coup, on a apporté notre soutien aux entretiens Alzheimer. Et on en est vraiment particulièrement heureux, hein, puisque nos axes, hein, l'important de notre action sociale, c'est le bien vieillir et l'aide aux aidants. Et on voit à travers les intervenants aujourd'hui à quel point ces entretiens abondent sur ces deux priorités. Et puis c'est du coup aussi notre soutien aujourd'hui au Gérontopôle et sur son programme ACOPA qui est un petit peu là pour essayer justement de regarder les inégalités d'accès aux soins pour les malades et leurs aidants. Et du coup, bah, c'est évidemment Mickaël qui aura bien plus de choses à dire sur le sujet et je lui laisse la parole. Merci à vous.
Merci Muriel. Oh, c'est bon, je posais, non, deux, ça va faire des acouphènes. Hop. Alors je vais rapidement me représenter. Donc Mickaël Blanchet, géographe au sein du Gérontopôle des Pays de la Loire, et chercheur aussi associé à l'Université d'Angers. Donc j'ai fait des travaux sur le vieillissement depuis une quinzaine d'années, que ce soit sur l'étude des politiques publiques ou bien même des pratiques des personnes âgées. Ce que je peux dire, là, la présentation elle va être centrée sur les aidants et avec une teinte territoriale, voir dans quelle mesure le territoire permet de lire cet enjeu qui est celui des aidants, que ce soit auprès des personnes âgées en perte d'autonomie, de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou autres, d'autres types de publics. Alors, dans un premier temps, un peu pour se mettre dans le bain, l'idée va être de reprendre cette relation aidant-aidé et de parcourir, présenter quelques rappels assez basiques pour ensuite, dans un second temps, appréhender de manière plus géographique et s'interroger de manière politique sur cet enjeu qui est celui des aidants. Alors, les constats sont les suivants. On a 6 aidants sur 10 qu'ils sont auprès de personnes âgées. On a la plupart des aidants, sur les enquêtes, qui sont des aidants familiaux, conjoints, enfants, ou bien même des frères. C'est des choses qu'on recense. Et puis, la plupart sont, au-delà des caractéristiques, sont des femmes, notamment. Il y a une dimension genrée, avec un certain âge aussi, parce que du fait de la perte d'autonomie qui apparaît à un stade sévère à partir de certains âges plus avancés, hein, au-delà de 80 ans notamment. Également, ça peut être aussi d'autres membres de la famille. Avec derrière, en parallèle, différents rôles. Des rôles qui peuvent être en matière de soutien au niveau administratif, on l'a vu, ou bien même d'un point de vue plus technique, si j'ose dire, ça peut être du nursing ou de l'accompagnement à l'entretien du cadre de vie. Mince, hop. Également, en termes de... Ça, je vais reprendre ce que nos camarades psychologues ont énoncé ensuite, auparavant, c'était... le fait d'appréhender entre guillemets ce rôle comme un fardeau. Alors c'est pas tout le temps le cas. Il y a différents sociologues qui disent il y a aussi des formes d'accomplissement dans ce rôle. Il y a aussi des dons. C'est aussi des temporalités où la parole peut se libérer. On peut revenir sur les épisodes familiaux. Donc c'est pas qu'uniquement un sas péjoratif. Néanmoins, d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel, ce graphique, et puis même les témoignages qu'on a pu avoir, attestent du fait, ben, tout simplement et de manière limpide, y a des conséquences, il y a une charge, il y a une pesanteur, et donc une usure en termes de fatigue, notamment avec, pour les personnes qui vivent conjointement au domicile des personnes aidées, le rôle de la nuit, de l'épuisement, la capacité à pouvoir récupérer et donc d'avoir du répit. Je continue. Au-delà de ce constat, on est face à un aidant qui, dont le rôle est plastique. Il est à la fois en prise avec la société, mais aussi avec, de manière progressive, de plus en plus accaparé, de plus en plus en prise avec son rôle même d'aidant. Et donc avec différents stades. Des stades d'équilibre de l'aide, des stades qui, avec la progression des maladies, d'usure, et puis des stades de points de rupture et de crise. Et par rapport à ça, y a différents rôles, des rôles de manager, entre guillemets, par rapport aux différents intervenants. Et Dieu sait si dans le domicile, que ce soit au niveau des aides-soignantes ou des aides à domicile, il y a parfois des balais d'intervenants, du fait d'un secteur qui est sinistré. Mais j'y reviendrai sur la question politique dans un second temps. Il y a également d'autres formes de tensions qui sont liées au partage des rôles. Ça peut être aussi dans les membres d'une même famille. Je vous disais que les rôles étaient plutôt genrés. Mais aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que des fois, c'est de manière plus ou moins tacite, il y a un partage des tâches. Et parfois, ça peut, entre guillemets, comme des frontières, ça peut être source de malentendus, de tensions, de conflits. Et donc, ce qui rejoignait la diapositive précédente. Deux enseignements un peu nouveaux qu'on a pu apporter en sociologie, puisqu'on mène différentes recherches sur les aidants, comme l'a pu énoncer Muriel. Et donc, j'ai une camarade qui termine à l'heure actuelle une recherche auprès de 70 aidants dans le département de Loire-Atlantique. Donc, c'est des travaux sociologiques avec des entretiens de 2 heures, très approfondis, mais réalisé de manière minutieuse, avec 2 enseignements intéressants. Un premier enseignement, c'est que le fait qu'on s'aperçoit que dès lors, par rapport aux enfants qui aident, pour les personnes âgées qui vivent seules, que lorsqu'il y a par exemple séparation de la fille ou bien même du fils, et ensuite remariage, que là, entre guillemets, la continuité d'aide, il y a une rupture, entre guillemets, relationnelle, qui se répercute sur le niveau, la fréquence d'aide. Ça, c'est un des premiers éléments qui n'existait pas dans la littérature. Et puis également, il y a le rôle incontournable des aidants extra-familiaux. Vous avez des voisins, des voisines, plein d'illustrations. Également, vous avez des fois des aides à domicile, des personnes, des cadres infirmiers ou des infirmières qui travaillent en EHPAD, des aides-soignantes, qui, d'un point de vue informel, établissent un continuum d'aide de manière informelle, ce que je disais, une fois à la retraite. Et ça peut être des coups de main, ça peut être des petits ajustements, ça peut être des coups de main administratifs, ça peut être des coups de main techniques sur le cadre de vie, sur le ménage, etc. Donc, on s'aperçoit qu'il y a ce registre professionnel qui est là, le registre familial, mais aussi le registre extra-familial, qui est peu investigué et qui... quand on gratte un peu, quand même une certaine prise. Voilà, pour les, entre guillemets, une sorte de panorama sociologique. Et j'en viens un peu le cœur et un peu ma spécialité, c'est-à-dire la géographie. Et là, je vais vous balancer quelques cartes, mais bon, plus sérieusement, ce qu'on a pu faire au niveau du Gérontopole, ça a fait l'occasion d'une publication scientifique, c'est de réaliser un score. Un score, entre guillemets, c'est que vous avez différents indicateurs, là, qui sont liés justement à la disponibilité professionnelle, savoir le niveau d'activité des personnes en âge d'aider, notamment pour les personnes âgées. Donc savoir les 55-65 ans. Bon, là, petite parenthèse avec le système des retraites, il y a encore des questions, on verra comment ça évolue. On a aussi, j'ai pu modéliser les déménagements des enfants, voir un peu où ils ont pu déménager, si c'est dans le même département ou de manière extra-départementale. J'ai pu voir aussi d'autres configurations, comme le fait de vivre seul à la retraite. Et l'ensemble, j'ai pu compiler tous ces indices, entre guillemets, pour en faire un score. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus, entre guillemets, vous êtes en rouge, plus les prédispositions, plus, en fait, potentiellement, les enfants de personnes très âgées, donc au-delà de 80 ans, désolé, hein, parce qu'il faut bien des seuils, on peut toujours en discuter, mais Ces personnes-là, potentiellement, elles habitent davantage à proximité. Et dans les zones, les agglomérations, les communes périurbaines sont plutôt bien prédisposées. En revanche, certaines zones rurales, un petit peu dans la région, mais aussi certaines zones littorales, sont moins abritées par rapport à ce phénomène. Donc ça, c'est à tenir en compte, parce que ce n'est pas la même donne de faire, même si on sait qu'il y a parfois des dépassements, il y a des belles histoires, entre guillemets, il y a des belles fonctions dans le rôle des dents, ou parfois vous avez des personnes qui font jusqu'à 2 heures de bagnole. Généralement, dans l'usure, ou bien même dans les mécanismes de déclenchement de l'aide, c'est une incidence importante. Avec aussi, bien entendu, la pondération avec les professionnels, et j'y viens, à savoir que par rapport à l'accueil de jour, notamment depuis la fin des années 2000, les différents plans Alzheimer, il y a eu notamment le dernier 2008-2012, pas mal d'impulsions pour créer justement des lieux, des services spécifiques destinés à la fois à l'accompagnement des personnes malades, mais aussi à destination des aidants. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que par rapport à quelle territorialisation, quel niveau d'équipement sur le territoire, et ce qu'on s'aperçoit, c'est que par rapport à ça, il reste des disparités. Des disparités importantes, notamment entre milieu urbain et milieu rural. Sachant que les grosses agglomérations sont davantage dotées. Par exemple, les maisons des aidants, on n'en retrouve pas partout sur le territoire. Différents types de projets innovants, on n'en retrouve pas partout sur le territoire. À ce titre-là, il y a des inégalités qui sont assez béantes sur le territoire et qui posent des questions par rapport à justement à ces prises en charge. Et en amont aussi, ça se cumule à d'autres inégalités. Ça, c'est les soins de ville, notamment les médecins généralistes, qui ont un rôle important dans la détection et aussi l'orientation des personnes âgées vers, et de leur entourage vers les centres mémoire. Ça se fait par ce biais-là, ou parfois plus directement, mais bon, ils ont ce rôle de détection. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en rouge, ce sont les zones qui sont les moins densément équipées en médecins généralistes. Et parfois, donc, vous avez des territoires, vous avez peu de taux d'accueil de jour, peu d'hébergement temporaire, peu de médecins généralistes, etc. Ce qui fait que dans un rayon de 25 km autour de votre domicile, la carence, elle n'est pas forcément relationnelle, elle n'est pas forcément liée au fardeau, entre guillemets, du rôle des dents, mais elle peut être liée aussi au fait que sur le territoire, il n'y a pas forcément grand-chose. Et donc, ce qui pose la question de l'accessibilité. Et par rapport à cela, vers quoi on se dresse, quoi. Et la question, c'est une question politique. Hein. On est depuis la loi SV. Concrètement, on a beaucoup de rapports. On a beaucoup de mini-lois, etc., de petits ajustements législatifs. Mais on n'a pas forcément de loi cadre, de loi qui impulse une véritable dynamique, que ce soit sur le registre gérontologique et gériatrique. Concrètement, c'est ce qu'on peut dire. Or, d'un point de vue, si on se positionne d'un point de vue des besoins, c'est-à-dire du nombre, l'évolution du nombre de personnes âgées, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de personnes qui arrivent à la retraite est de plus en plus important. On est face à une dynamique, on a l'arrivée des baby-boomers à la retraite. Et donc, rien que par exemple, pour la région Pays de la Loire, là, c'est la France, vous pouvez l'enlever, c'est pour l'autre diapo, on est face à une augmentation importante du nombre de personnes âgées et très âgées. En soi, c'est un succès, dans la mesure où ça veut dire que les personnes vieillissent, les personnes arrivent à la retraite plutôt, on peut parler de succès démographique qui va atteindre son apogée jusqu'en 2040-2045, avec un plateau, puis ensuite, à partir de 2055, une déclinaison. Donc, quand on parle de pérennisation de financement du système de retraite, si on se projette à 30-40 ans, ce n'est pas forcément les mêmes équilibres qui vont apparaître derrière. J'en reviens souvent en retraite. Également, en parallèle, d'un point de vue politique, bon, elle arrive ou pas ? Hop. Vous pouvez prendre en photo, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour la France. Voilà. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que même si les politiques publiques ont investi dans les maisons de retraite, c'est-à-dire avec des autorisations, des créations de places, d'établissements supplémentaires, que ce soit au niveau des accueils de jour, ça apparaît pas ici, au niveau des SIAD, au niveau des SLD, du SMR, etc., concrètement, il n'y a pas une diminution du nombre de places. Par contre, l'augmentation qu'on a pu voir du nombre de places au niveau national, elle n'a pas suivi l'évolution du nombre de personnes âgées et surtout du nombre de personnes très âgées. Qui dit érosion, qui dit tension ensuite sur les professionnels, qui dit aussi tension sur les aidants, etc. Donc c'est aussi cette question-là derrière. C'est entre guillemets la question des aidants. Elle est, s'il y a un petit apport, une sorte de modeste réflexion que je peux apporter, c'est qu'il est intéressant de la penser en tant que filet. En tant que filet au niveau des professionnels, mais aussi au niveau informel et au niveau des politiques publiques. C'est à savoir comment, au niveau local, à différentes échelles, que ce soit au niveau du quartier, au niveau d'une commune ou plus, on arrive à mailler, on arrive à justement à créer des nœuds qui permettent, que ce soit en matière de diagnostic, que ce soit en matière d'accompagnement ou de répit, qu'on arrive justement à justement bien soutenir au mieux les personnes et puis les aidantes et puis les personnes aidées. Voilà ce que je peux vous dire vraiment pour, en guise de réflexion. Sachant que je fais un peu de bonne annonce, c'est que là, au Gérontopole, je vous parlais d'une recherche sociologique qui va arriver. Elle sera bientôt publiée. Et pareillement, on va pouvoir publier une étude très fine, cette fois-ci, sur tous les dispositifs d'aidants, sur la région Pays de la Loire, par contre, à savoir, que ce soit au niveau du soutien, au niveau de l'orientation, au niveau de la formation, etc., au niveau de l'offre institutionnelle comme derrière moi, voir où elle est présente, au niveau, quel niveau de sollicitation également, et de voir si, c'est une de mes hypothèses, on ne retrouve pas certaines communes un peu excentrées, notamment en milieu rural, notamment dans les départements de la Mayenne ou de la Sarthe, où justement le niveau d'aide, le niveau d'offre n'est pas forcément le même et qui pose question en termes d'équité territoriale. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour des questions.